est le fondement inébranlable de notre salut. Alors, je m'appelle Victor Magnus et je suis donc aussi membre du conseil pastoral de l'église de Bouxwiller. Et moi, j'ai plutôt un rôle de pasteur. Alexandre a dit l'autre fois qu'il était plutôt évangéliste, ce qui amène les gens au Seigneur. Et moi, j'ai plutôt le rôle de pasteur qui m'ont donc, après être venu à Jésus, aider les gens à grandir avec lui pour arriver à l'objectif final. Parce que quand on vient à Jésus, ce n'est pas quelque chose qui se passe en une seule fois, mais il y a un chemin qui est conduit par Dieu et qui est conduit par le Saint-Esprit pour nous aider à accomplir ce que Dieu a préparé. Et ce matin, donc, on va parler du Saint-Esprit. Et on va voir, on a déjà vu plusieurs messages sur le Saint-Esprit. Et ce matin, donc, on va ensemble aborder un message d'enseignement. Donc, c'est de l'enseignement. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Ne vous inquiétez pas. Lisez votre Bible, posez des questions, il n'y a aucun problème, on est là pour vous aider. Et ce message aussi, pour comprendre un peu ce message et pas se méprendre sur ce qui va être partagé, il faut comprendre où il se situe. Il y a d'abord le salut. Quand on vient à Jésus, c'est par la grâce. Et donc Dieu nous appelle à venir, à croire en Jésus, à l'œuvre qu'il a faite. On a déjà entendu beaucoup de choses avant. Jésus est mort pour nous à la croix. Et c'est lui qui, par grâce, nous ouvre la porte du ciel pour que nous soyons réconciliés avec Dieu par sa mort et son sacrifice, et non par nos œuvres. Mais une fois que nous sommes entrés, commence un chemin que la Bible appelle le chemin de la sanctification, c'est-à-dire que Dieu va chercher à nous rendre semblables à l'image de Jésus. Et c'est dans cette partie-là que nous allons donc parler ce matin, pas de la grâce pour venir, mais de ce qui découle de la grâce, ce qui est le fruit de la grâce et ce que nous pourrons accomplir grâce, on le verra, à la puissance du Saint-Esprit que Dieu donne à tous ceux qui croient en lui. Et donc on va, pour commencer, voilà, donc c'est donc le ministère du Saint-Esprit, son œuvre intérieure dans le croyant. Ça va ? C'était clair ? On est bien situé ? Et donc, on va lire un texte que j'ai pris pour base. C'est le texte de Éphésiens 3, versets 20 à 21. Si à un moment donné, vous voulez revoir les versets ou les passages, n'hésitez pas à venir me voir, je vous donnerai les références pour lire ces passages, ou si vous voulez l'enseignement aussi, vous pouvez le reprendre. Donc, Éphésiens 3, versets 20 à 21, où Paul donc nous dit ceci. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, donc c'est le Saint-Esprit, infiniment au-delà, donc au-delà c'est déjà beaucoup, mais infiniment au-delà, ça dépasse notre intelligence et c'est juste énorme. De tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà. Le message aussi se base sur Romains chapitre 8. David en a déjà parlé. Et donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui vont être puisées dans ce chapitre. Donc, si à la maison vous voulez revoir, relire ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains, ou le chapitre 6 aussi. Vous pourrez là aussi vous nourrir et comprendre tout ce qui est partagé ce matin et le chercher par vous-même, par ce qui est écrit dans la parole. Introduction, une réalité extraordinaire. L'Esprit de Dieu vit en moi. C'est quelque chose de stupéfiant, d'incompréhensible pour notre esprit humain. Dieu qui vient vivre en nous par son Esprit. Il fait de mon corps son temple pour que ma vie aujourd'hui puisse honorer Dieu. Et tout ça, n'oublions jamais que ça a été rendu possible parce que Jésus est mort et ressuscité. C'est lui qui a accompli l'œuvre pour permettre que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, qu'il puisse venir vivre en nous. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance, qui est donc basée sur la grâce et non plus sur la loi, sur l'observance de la loi. Jésus a dit dans Jean 14, donc là aussi Jean 14, c'est des versets Jean 14, 15, 16, que vous pouvez relire, qui nous parlent du Saint-Esprit. Et donc Jean 14, versets 15 à 17, Jésus nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. » Donc vous, c'est les croyants, ceux qui ont cru en Jésus. Hein. « Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » C'est juste extraordinaire de pouvoir voir la profondeur de ces paroles et de les saisir aussi pour les vivre. Hein. Je crois ce qui est écrit. Est-ce que tu crois ce qui est écrit? Oui? Amen. Si tu le crois, tu le vivras. Mais si tu ne le crois pas, tu ne le vivras pas. Et donc on voit que derrière tout ça, l'Esprit Saint, c'est la puissance de Dieu. C'est une personne, le Saint-Esprit, et c'est la puissance de Dieu qui vient agir dans nos cœurs, à l'intérieur. Acteur ou spectateur? Dans le plan de Dieu, pour tous ceux qui sont sauvés, qui ont reçu la grâce de Dieu, Dieu ne veut pas des spectateurs. Les spectateurs, c'est des personnes qui sont inactives. Quand vous allez voir un match de foot, est-ce qu'il y en a qui aiment le foot? Non, c'est raté. C'est pas tout. Ah si, quand même. Hein, merci Marc, merci, merci. Ou un autre sport, hein, ou un autre sport quelconque. Il y a ceux qui sont spectateurs dans les tribunes et qui regardent, mais ils ne bougent pas des masses. Et ce n'est pas eux qui font avancer le schmilblick, hein. Ils ne servent absolument à rien. Et Dieu ne veut pas des spectateurs, il ne veut pas qu'on soit simplement là à regarder et puis à laisser faire Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons acteurs de notre vie, que nous puissions nous engager avec lui, comprendre sa volonté. C'est hyper important pour le chrétien, celui qui est né de Dieu, qui est enfant de Dieu, c'est qu'il cherche la volonté de Dieu. Et c'est important, important de prendre du temps pour ça, de lire sa parole. Et après, l'Esprit Saint va lui révéler la volonté de Dieu. Et après, l'Esprit Saint va l'aider à participer, à entrer et à collaborer avec lui pour accomplir cette volonté dans sa vie. Et alors la question qu'on peut se poser, et qu'on doit se poser en tant que chrétien, à un moment donné, c'est pourquoi Dieu nous a-t-il donné le Saint-Esprit? Pourquoi? Et cette question est importante pour nous, pour chacun de nous. Et Dieu veut que nous nous posions cette question. Car, nous dit l'apôtre Paul, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Des fois, on réduit la parole de Dieu, on enlève des morceaux Et on dit, ah, mais c'est bon, Dieu veut que tout homme soit sauvé. Et on reste là, c'est bon. Maintenant, j'ai mon ticket en poche, j'attends le retour. Eh bien, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut aussi que nous parvenions. C'est lié. Le salut est lié. C'est deux choses liées et indissociables. Il veut nous sauver. Et être sauvé, ça veut dire parvenir à la connaissance de la vérité. Et donc, nous avons une part à faire. Et le sujet qu'on va donc aborder ce matin va être assez sensible, puisque ce sujet est assez mal vu aujourd'hui dans le monde, et même il est plutôt mis de côté. C'est ce qu'on appelle l'obéissance, obéir. Et souvent, on se méprend parce qu'on pense que la grâce nous dispense d'obéir. Mais nous verrons par la suite, en vous montrant la volonté de Dieu, que ce n'est absolument pas le cas, mais que la grâce nous conduit à l'obéissance et il n'y a pas d'autre chemin. Parce qu'une grâce qui ne conduit pas à l'obéissance n'est pas une grâce, c'est un mensonge qui ne sauvera jamais personne. Donc, pourquoi avons-nous reçu le Saint-Esprit ? Nous avons reçu le Saint-Esprit pour obéir à Dieu, pour nous conduire dans les voies de Dieu, pour nous révéler les voies de Dieu et nous aider à y marcher. Et c'est le Saint-Esprit qui va œuvrer en nous, qui va être la puissance qui va nous permettre de réaliser ça. Avant que nous soyons sauvés, avant que nous soyons en relation avec le Christ ressuscité, que Jésus vit en nous, c'est Jésus le centre. Nous étions incapables d'obéir et l'homme naturel est incapable d'obéir à Dieu. Et nous l'avons prouvé. Mais maintenant, Jésus est là. Et par la présence du Saint-Esprit, nous pouvons obéir. Et même, il va faire au-delà. Il va faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Ou penser. Obéir, c'est faire ce qui est agréable à Dieu. Obéir, c'est faire ce qui est agréable à Dieu. Et j'ai encore eu une autre pensée de Spurgeon que Jean-Daniel nous a envoyée ce matin. Hein ? Vendredi. Qui nous dit que l'obéissance n'est pas la perfection, mais c'est la direction. L'obéissance n'est pas la perfection. On ne pourra pas obéir de manière parfaite sur la terre, mais c'est la direction. C'est ce qu'on désire au plus profond de notre cœur. Et Dieu va accomplir cette œuvre pour le retour de Jésus. Il faut que j'avance. Le point 1, on va voir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu et son plan ? Et c'est important de comprendre, de partir du début, de comprendre, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous ? L'obéissance, une condition indispensable à la présence de Dieu. On ne peut pas vivre dans la présence de Dieu sans l'obéissance. C'est impossible. Pourquoi ? Quelqu'un a une idée ? Pourquoi ? Oui ? Notre nature, oui. C'est vrai, tout à fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans la Bible, quelle est l'essence principale de Dieu ? Avant, on a entendu que Dieu est amour. C'est un aspect de Dieu. Mais quelle est l'essence principale et centrale de Dieu ? Qui est vraiment mis en avant dans toute la Bible comme étant le centre, le cœur même de ce qu'est Dieu, c'est la sainteté, la sainteté de Dieu. Et dans cette sainteté, il y a d'une part une justice implacable et un amour infini. Et la sainteté de Dieu, c'est l'équilibre entre ces deux choses. C'est un amour saint et une justice plein d'amour. Et cette sainteté, elle fait que si on se présentait devant Dieu d'une manière non conforme à sa volonté, eh bien, la sainteté de Dieu est comme un feu dévorant qui sort de Dieu et qui consume tout ce qui est opposé et contraire à sa volonté. Et ce n'est pas quelque chose que Dieu, comme une règle que Dieu met en place, c'est l'essence même de sa personne. C'est ce qu'il est. Et nous avons juste sa nature propre. Et heureusement que Dieu ne laisse pas libre cours à cette sainteté, qu'il la réfrène. Sinon, nous serions tous consumés sur place et personne ne pourrait subsister devant lui. Et donc, dès l'origine, on voit, entre autres dans la Genèse, que quand Dieu vient voir les hommes, et Dieu veut être avec l'homme, il veut avoir une relation personnelle avec sa créature, parce qu'il aime sa créature. Mais l'obéissance est indispensable parce qu'il est un Dieu saint. Et donc Dieu met des règles en place qu'il nous faut respecter, sinon on ne peut pas se tenir devant lui. Et donc dans Genèse, on voit qu'en rencontrant Adam et Ève, Dieu donne une loi. Il y en avait sûrement d'autres, hein, mais c'était la loi principale. Dans Genèse 2, versets 16 à 17, il dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. » Oui, Dieu a le droit de donner des ordres parce qu'il est le Créateur. Il est celui qui a tout créé. Et donc, il a le droit de nous donner des ordres. Et il dit à l'homme, donc à Adam et à Ève, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, donc le jour où tu désobéiras, tu mourras de manière certaine. » Et donc on voit ici que obéissance égale présence de Dieu, la vie, parce que Dieu est la vie, donc être auprès de Dieu c'est la vie, et bénédiction. Par contre, à l'inverse, la désobéissance, c'est l'absence de Dieu, parce que Dieu est saint, donc il ne peut pas rester en présence. C'est la mort, la séparation avec Dieu, et derrière l'aboutissement de la mort, c'est les feux de l'enfer pour l'éternité, et la malédiction. Et on voit que Dieu va renouveler toujours à nouveau cette alliance avec les hommes en donnant des règles. Et pour le peuple d'Israël, on retrouve exactement pareil. Dieu va leur donner une loi, des règles, pour qu'ils puissent rester en sa présence. Et ils avaient une multitude de lois pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et sans obéir à ces lois, ils étaient brûlés sur place, ils ne pouvaient pas venir devant Dieu. La chute de l'homme ou le choix de la désobéissance. Malheureusement, nos premiers parents ont désobéi à Dieu. Ils étaient libres. Dieu a créé des êtres libres. C'est un des aspects de l'être humain. On est libre. Et dans sa liberté, il a usé de sa liberté pour faire le choix de désobéir à Dieu. Malgré que Dieu avait averti, Dieu avait clairement délimité le cadre, mais l'humain a désobéi. Et donc, ils ont été séparés de Dieu. Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu. Ils ont été obligés de fuir, de partir. La souffrance est entrée dans le monde. L'angoisse est entrée dans le monde. La violence est entrée dans le monde. Tout cela va être le fruit de la malédiction liée à la désobéissance. Heureusement, Dieu n'est pas resté à ce niveau-là. Mais voyant l'incapacité de l'humain d'obéir à cause du péché qu'il y a en lui, puisque l'homme est esclave du péché, donc il ne peut plus obéir, parce que le péché empêche cette obéissance, eh bien Dieu avait prévu un plan. Et ce plan, il l'a exprimé dans un prophète, Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, bien avant la venue de Jésus, où il a prophétisé, il a dit ce qu'il allait faire. Dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, il dit « Je répandrai sur vous », donc il parle de son peuple, Israël, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Notez bien que c'est Dieu qui dit « Je vous purifierai ». Je vous purifierai. Et là, déjà, on a un changement par rapport à la loi que Dieu leur a donnée, où Dieu avait dit, si tu obéis à ma loi, tu seras sauf, tu peux rester dans ma présence. Et là, il dit, c'est lui, je vous purifierai. C'est plus l'humain qui peut se purifier seul, mais c'est Dieu qui va faire une œuvre et qui va purifier l'humain qui est incapable d'obéir à Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau, nouvelle naissance, cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et là, on a la volonté de Dieu dans le salut que Jésus nous accorde. À la croix, Jésus est venu purifier son peuple, purifier tous ceux qui veulent venir à lui. Il a pris sur lui ce que méritaient nos péchés. Il a accompli la justice de la loi. La justice de la loi disait que tous ceux qui transgressent la loi, un seul commandement est transgressé et vous subissez la condamnation. Donc c'était impossible. Aucun homme ne peut respecter tous les commandements de la loi. C'est impossible. Et devant ça, c'est Dieu lui-même qui est venu et qui, en Jésus sur la croix, a accompli la justice de la loi parce que Jésus a subi la conséquence, le jugement que réclame la loi pour tous ceux qui la transgressent, c'est la mort. Et il est mort sur la croix pour nous libérer et pour accomplir en nous, nous qui croyons, nous qui plaçons notre confiance en Jésus pour accomplir en nous la justice de la loi. Jésus l'a accompli pour nous. Jésus est devenu justice pour nous. Non plus la justice de la loi, il ne faut pas confondre les deux. Il y a la justice de la loi, il faut obéir à la loi. Mais maintenant, il y a la justice de Jésus qui, lui, a accompli la loi à notre place. Et ça, c'est la justice de Dieu dont parle Paul. Ou simplement en croyant que Jésus a accompli cela, qu'il est le Fils de Dieu, je suis blanchi, je suis lavé, purifié, et la justice de la loi se fait en moi. Et je suis réconcilié avec Dieu. Il n'y a donc plus aucune condamnation contre moi, puisque Jésus est mort à ma place, donc c'est réglé, c'est fini. Nous sommes libérés, affranchis de la loi du péché et de la mort, de la puissance du péché et de la mort, par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et cette œuvre a pour but, non pas de nous placer dans le coin des spectateurs, mais cette œuvre a pour but de nous réintégrer dans l'obéissance à Dieu, de nous ramener sur le chemin de l'obéissance. Et c'est le deuxième point, c'est l'œuvre intérieure du Saint-Esprit. C'est quoi l'œuvre intérieure du Saint-Esprit ? Nous ramener sur le chemin de l'obéissance. Et c'est la même obéissance, c'est obéir. Il n'y a pas de différence. Simplement, la motivation n'est pas la même. La motivation n'est pas la même parce que avant, sous la loi, je devais obéir pour être sauvé. Et si je n'obéissais pas, j'étais condamné. Maintenant, avec Jésus, il y a une grande différence. C'est que Jésus m'a sauvé. Je suis sauvé. Il a accompli la justice de la loi à ma place. Et maintenant que je suis réconcilié, que je suis lavé, que je suis enfant de Dieu, et bien maintenant, je vais obéir. Non plus pour, mais parce que je suis sauvé. Je vais obéir parce que je suis sauvé. Je vais obéir par amour devant le sacrifice incommensurable que Jésus a fait pour moi. Devant les souffrances, on l'a chanté avant, hein, devant les souffrances de Jésus qu'il a endurées pour nous, devant lui le roi, le Fils de Dieu, qui s'est abaissé, qui s'est dépouillé de sa gloire et qui est venu pour être rejeté, pour être méprisé, pour prendre sur lui mes péchés, nos péchés, tes péchés. Mais devant cet amour qu'il a témoigné pour nous, il n'y a qu'une seule réponse. C'est que maintenant, nous voulons nous donner à lui et nous voulons revenir pour obéir et pour demeurer dans la présence de Dieu. Parce que nous voulons la présence de Dieu, c'est le bien le plus précieux que nous pouvons avoir. La deuxième chose, dans cette œuvre du Saint-Esprit, qui est l'œuvre principale, hein, c'est l'œuvre essentielle, fondamentale du Saint-Esprit. Toutes les autres choses gravitent autour, mais ça, c'est l'œuvre fondamentale, hyper importante pour Dieu. Et sur ce chemin d'obéissance, conduit par l'Esprit, ça ne s'arrête pas là. Quel est le but de ce chemin d'obéissance? Ce n'est pas juste pour obéir, mais quel est le but de ce chemin d'obéissance? C'est nous conduire à être rempli de toute la plénitude de Dieu. Dieu veut nous purifier, Dieu veut nous sanctifier, je l'ai dit avant, pour enlever de nous tout ce qui en nous n'est pas à sa gloire. Parce qu'il ne supporte pas le péché. Et donc il va œuvrer en nous, avec nous, pour nous libérer du péché. Parce que le péché nous détruit. Le péché va nous séparer de Dieu. Le péché va salir le nom de Dieu. Le péché nous détruit. Le péché est la cause de toutes les souffrances du monde. Le péché est horrible. Ce n'est pas un péché mignon, mais c'est juste horrible le péché. Quand on le regarde en face comme Dieu le voit, il est horrible. Imaginez-vous, depuis la chute, depuis Adam et Ève, toutes les souffrances, toutes les violences sur la terre qu'ont pu vivre les uns et les autres, toutes les guerres, hein, on a encore des guerres au milieu de nous, on voit aussi en Haïti combien de gens meurent à cause du péché. Imaginez simplement le poids de cette souffrance liée à la cause du péché. Et donc Dieu veut nous séparer du péché, il veut nous libérer et nous conduire dans cette voie où il va nous transformer intérieurement pour nous amener à la ressemblance de Jésus. Et Jésus, dans Jean 16, au verset 13, donc c'est le passage Jean 13 à Jean 17, vous pouvez aussi lire à la maison, hein, Jean chapitre 13 à chapitre 17. Jésus nous donne beaucoup d'infos sur le Saint-Esprit. Et là, Jésus nous dit que quand le Consolateur, donc l'Esprit Saint, sera venu, certains disent le défenseur, il y a différentes traductions possibles, l'Esprit de vérité, à l'opposé du mensonge. L'Esprit de vérité, après, Satan, c'est le mensonge. Quand on n'est plus avec Jésus, quand on n'est pas uni à Dieu, on est dans le mensonge. On est des enfants de mensonge et on est enténébrés, on ne sait absolument plus ce qu'on fait. Notre intelligence est complètement incapable de comprendre les choses de Dieu. On se ment à soi-même, on ment aux autres, on se détruit mutuellement. Et là, c'est l'Esprit de vérité. Et bien, cet Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et c'est en nous conduisant dans la vérité que l'Esprit Saint va ouvrir nos yeux. C'est comme si la lumière entre dans les ténèbres et d'un coup, quand la lumière, elle entre dans notre cœur, la première chose, on découvre notre péché. Quand le matin, vous vous levez, vous avez fermé les volets, tout est noir. Alors on imagine, vous restez dans le noir. Quand vous restez dans le noir, vous ne voyez pas la saleté. Et à un moment donné, on laisse traîner, on met les choses, on ne sait pas trop, donc on les met n'importe où. Puis c'est un peu le bazar dans la maison. Mais quand vous ouvrez le volet et que la lumière, poing, elle rentre, vous voyez le bazar qu'il y a à la maison. Vous voyez l'étoile d'araignée. Toutes les choses mal rangées, toutes les choses qui sont sales, vous les voyez. Mais après, vous avez toujours le choix. Certains referment le volet. C'est une solution. On referme le volet, mais ça n'enlève pas la saleté. Et ça libère personne. Ou alors on ouvre le volet, on accepte cette lumière qui fait mal au départ. Quand vous regardez le soleil, on n'est pas habitué à la lumière. Elle dérange au départ. Mais si on accepte ça, et qu'on va au-delà de ça, et qu'on laisse l'Esprit Saint travailler en nous, on lui laisse tous les pouvoirs, alors il œuvre. Et là, il y a des choses qui changent dans nos vies. On est transformé. Et la vie de Dieu vient en nous. La victoire de Jésus va s'accomplir en nous, se manifester en nous, et nous allons de plus en plus être semblables à Jésus. Notre communion avec Jésus va être de plus en plus forte, de plus en plus grande. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux de découvrir Jésus et que Jésus grandisse en nous de plus en plus. Et cette œuvre, donc, que fait l'Esprit Saint, on l'a déjà rappelé, n'a aucune limite. Aucune limite. Cette œuvre que Dieu fait dans nos vies, dans mon cœur, n'a aucune limite. À celui qui peut faire, par la puissance de Saint-Esprit qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ne te dis pas que ce n'est pas possible. Ne te dis pas en toi, ne laisse pas cette pensée venir, « Ah, mais moi, j'y arriverai jamais. Ah, c'est trop sale chez moi, j'y arriverai jamais. » Arrière de moi, Satan, car cette pensée n'est pas de Dieu. Amen. Cette pensée n'est pas de Dieu. Parce que Dieu nous dit qu'il fera cette œuvre en nous, parce qu'il a mis en nous son esprit et que rien ne peut s'opposer à son esprit si nous le laissons agir. Troisième partie, la part du croyant. Qu'est-ce que nous on a à faire? Est-ce que l'Esprit Saint fait tout? Et puis moi j'ai rien à faire? Non, ça vous avez compris déjà. Oui, ça va. J'allais dire, punaise, c'est bon, je remballe là. La part du croyant. Alors je vais vous lire un verset dans le psaume 119. Là aussi, le psaume 119, je vais partager quelques passages, mais je vous invite à le lire. C'est un psaume merveilleux. Et donc, dans le psaume 119, versets 57 à 61, il est écrit « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Marcher selon l'esprit. L'image du vélo électrique. On va venir après sur l'image du vélo électrique. Obéir n'est pas dans notre nature propre. Par défaut, hein, comme le dit Paul dans Romains 8, la chair, ce que nous sommes par nature, cette chair, nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu et nous sommes incapables de le faire. Nous sommes des enfants rebelles. Vous le croyez, ça? Oui, amen. Voilà. Qui le croit? Vous pouvez lever? Wow. Il y a donc un choix à faire de notre part. Une décision à prendre. Est-ce que nous voulons continuer à marcher selon ma vieille nature? Ou est-ce que je veux changer et laisser les pleins pouvoirs à l'esprit que Dieu m'a donné? Et là, il faut nous faire violence. C'est clair. Il faut nous faire violence. Parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie. Et nous devons donc soumettre nos pensées, nous devons soumettre nos sentiments, nous devons soumettre nos émotions à l'obéissance de Christ et de sa parole. Une chose est sûre, c'est que l'Esprit Saint ne fera rien sans notre consentement. L'Esprit Saint ne fera rien sans notre consentement. Il nous faudra donner l'impulsion initiale d'obéissance. Pour que la puissance gigantesque, phénoménale du Saint-Esprit s'active en nous et accomplisse ce qu'il nous aura révélé et ce qu'il nous aura demandé. Mais je dois donner l'impulsion. C'est quoi ça? Bon, vous le savez déjà un peu. Ouais, vous le savez déjà un peu. C'est un vélo assistance électrique. Donc il y a là dans le truc central, il y a une batterie. Et donc quand on roule, à un moment donné, ben il y a une assistance électrique qui va nous aider. Et c'est très pratique pour les personnes qui deviennent moins jeunes. C'était gentil, ça, non? Moins jeunes, qui des fois ne peuvent plus, ben ça aide à avancer. Dans les montées, ça aide beaucoup. À l'époque, on était avec des amis, on faisait du vélo, j'étais jeune à l'époque, hein, et on montait dans les Vosges, des montées très dures, et puis à un moment donné, on n'arrivait plus. C'était tellement dur qu'on n'arrivait plus à monter, et on a commencé à marcher. Et pendant qu'on marchait, voilà que des personnes plus âgées nous doublent. Et tranquillement, quand on voyait leur visage, absolument pas essoufflé, on était sidérés. On ne connaissait pas encore les vélos, enfin, je n'avais pas encore souvenir des vélos électriques, donc je ne pensais pas du tout à ça. Mais je me suis rendu compte, après, que quand on est arrivé en haut, on a vu qu'ils avaient des vélos électriques, ça m'a rassuré quand même. Mais en tout cas, c'est une belle image pour nous montrer l'œuvre du Saint-Esprit. Quand vous prenez un vélo électrique, que vous le prenez devant vous, vous montez dessus, vous restez comme ça, au sol, qu'est-ce qui va avancer? Ça n'avancera pas. Si vous restez assis sur le vélo et vous ne faites rien, ben il n'avancera pas. À quel moment la puissance électrique va s'enclencher, va s'activer? Quand on appuie sur la pédale, dès que je fais l'action d'appuyer, donc dès que je déclenche ma volonté, et que je vais appuyer pour dire j'ai envie d'obéir, j'ai envie d'avancer. À ce moment-là, le vélo, il ressent la pression et la puissance électrique s'enclenche. Et là, on est parti. C'est pareil pour nous quand on marche avec Jésus. Il nous faut donner le clic de départ, l'impulsion pour obéir et marcher par l'Esprit. Encore dans Romains 8, c'est là que Paul parle de marcher par l'Esprit ou encore être conduit par l'Esprit, c'est-à-dire obéir à l'Esprit et à ce qu'il nous montre, ce qu'il nous révèle. Et Paul dira aussi, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est impossible pour lui. Si à un moment donné dans ma vie, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, donc je n'ai pas accepté Jésus dans ma vie, je ne peux pas faire la volonté de Dieu. C'est impossible. J'ai eu une fois une jeune dans une église pendant mes études en Suisse qui est venue me voir et qui était dans un état déplorable. Elle était complètement abattue, complètement découragée. Elle avait même tendance suicidaire, tellement elle était affectée. Et cette jeune, l'Église l'avait baptisée. Voilà. Elle appartenait au groupe de jeunes. Il y a eu deux, trois qui se sont fait baptiser. On lui a dit, « Ah, mais toi, ça serait bien que tu viennes avec nous aussi pour le baptême. » Cette jeune fille, n'étant pas très sûre d'elle, comme on lui demandait en public, elle a accepté, « Ben oui, je veux bien me faire baptiser aussi. » Et hop, elle a suivi le mouvement. Après, on l'a intégrée dans l'Église. « Elle est enfant de Dieu !» Elle ne l'était pas. Elle ne l'était pas. Elle n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Elle n'avait pas rencontré Jésus personnellement. Et donc, tout ce qu'on l'enseignait, elle voulait suivre. Elle voulait suivre les autres. Les enseignements, elle voulait obéir. Elle n'y arrivait pas. Et quand je l'ai rencontrée, ça veut dire 2-3 ans qu'elle était dans cette situation-là, elle était découragée parce qu'elle se croyait chrétienne et elle n'arrivait absolument pas à obéir à Jésus. Absolument pas. Et là, je lui ai posé la question à un moment donné, « Mais est-ce que tu es vraiment né de nouveau ? Est-ce que tu as vraiment Jésus en toi ? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut en toi ?» Et là, elle a dit « Non, j'ai aucune assurance. » J'ai aucune paix en moi. Rien du tout. Et après, quelques temps après, elle a pu réfléchir à tout ça. Reconnaître qu'elle n'était pas avec Jésus, hein, reconnaître qu'elle n'avait pas l'Esprit Saint. Et ça l'a soulagée d'une certaine manière. Hein, ça l'a soulagée. Elle comprenait enfin pourquoi elle n'arrivait pas à obéir. Et puis je sais que quelques mois plus tard, elle est revenue me voir avec un grand sourire. Et elle m'a juste dit... Victor, c'est bon, j'ai Jésus, j'ai l'Esprit, alléluia. Et c'est ça qui nous conduit, c'est ça. Les différents moyens dont l'Esprit Saint nous parle, donc là aussi il y a différents moyens, je vais aller vite parce que l'heure est déjà avancée. Donc là, le moyen que l'Esprit Saint utilise, c'est la parole de Dieu. Hein. Pour trouver la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, chez les chrétiens, la Bible est de moins en moins lue et méditée. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je vous le dis gentiment, c'est un cri que je vous lance. Lisez votre Bible. Comment pouvez-vous connaître la volonté de Dieu si vous ne lisez pas la Bible ? Elle n'est pas en nous, la volonté de Dieu. Elle ne tombe pas du ciel comme ça, poum ! Dieu nous veut collaborateurs et on a besoin de lire et de méditer la parole, de chercher Dieu. Et c'est une des œuvres que fait l'Esprit, il nous attire à la parole. Donc, que fais-tu de la parole de Dieu ? Est-ce que tu lis ta parole ? Est-ce qu'elle est pour toi importante, cette parole ? parce qu'elle va te rapprocher de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce qu'elle est importante pour toi, cette parole? Est-ce qu'elle est fondamentale? Est-ce qu'elle est essentielle, vitale dans ta vie? Réfléchis, réfléchis. Il y a aussi l'Église que Dieu utilise, hein, notre communauté. Nos frères et sœurs nous aident à discerner la volonté de Dieu. C'est aussi un environnement qui est important. Les circonstances de la vie aussi nous aident à comprendre la volonté de Dieu. Et puis, il y a aussi des songes, des visions. Mais ces deux moyens-là que j'ai cités en dernier sont particuliers, très particuliers, et ils demandent beaucoup de prudence et surtout aussi d'être entouré par l'Église. De ne pas simplement avoir une vision seule dans mon coin, parce que là, il y en a beaucoup qui ont des visions en ce moment sur Internet, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et ces gens sont isolés des églises et travaillent en dehors des églises. Personne ne les connaît. Mais quand vous êtes dans une église, partagez ces choses à vos frères et sœurs, partagez-les à vos responsables pour qu'on puisse discerner si vraiment c'est la volonté de Dieu. Et alors, voilà, Paul est radical, que le péché ne règne donc plus dans votre corps. Que le péché ne règne donc plus. C'est un choix qu'on doit faire. On doit être radical, comme a dit Alexandre la semaine dernière, je crois. Non, à 15 jours, 2 semaines. Il faut être radical. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice et qui maintenant vont rendre gloire à Dieu. Donc là, on doit être radical, mais pas extrémiste. Radical, mais pas extrémiste. On doit aussi faire preuve d'indulgence et de compassion à notre égard quand nous tombons. Ne laissons pas l'ennemi nous écraser par la culpabilité. Ne nous infligeons pas nous-mêmes des sévices parce qu'on n'a pas obéi à Dieu, mais simplement, quand on est tombé, quand on a chuté, revenons rapidement à Jésus. Revenons apporter ce péché à Jésus, car il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et rappelons-nous que dans ces moments-là, que nous ne sommes plus sous la loi, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. On est sous la grâce. Et juste ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne suis pas rasé. Personne n'a été choqué? Bon, ça va, c'est bon, ça passe inaperçu. Mais en fin de compte, ce matin, je préparais mon message et malheureusement, l'horloge de ma chambre, quand la pile se vide, elle tourne moins vite. Et sans m'en rendre compte, l'heure était plus juste. Et moi, je regardais cette horloge, et donc j'ai dit, bon, ben, à 8 heures, je m'arrête, et après, j'ai le temps de préparer. Et d'un coup, quand je regarde, heureusement, j'ai regardé le bas de mon ordinateur, et j'ai vu que c'était une heure plus tard, il était déjà 9 heures. Et là, j'étais sidéré, j'ai dit, oh, punaise! Et après, à un moment donné, je suis sorti, j'ai vu 9h20. J'ai dit, je ne peux plus me raser maintenant, sinon je vais être en retard, quoi. Et là, j'ai dit, bon, Seigneur, tant pis. J'ai raté ça, mais je ne culpabilise pas. Hein? Je ne culpabilise pas. Tu sais, pardon. Mais je veux généralement, quand je viens au culte, être bien pour le Seigneur et faire ce qui est de mieux pour lui. Mais là, j'ai dit, Seigneur, voilà, pardon. Mais je n'ai pas culpabilisé, j'ai laissé la grâce. Alors pour finir, je vais juste encore lire. En conclusion, c'est aimer pour obéir. Aimer pour obéir. Jésus aimait Dieu, c'est pour ça qu'il a obéi à Dieu. Et Jésus aussi a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas une obéissance parce que j'ai peur de la condamnation, mais c'est parce que j'aime. Et j'obéis parce que je veux être agréable à Dieu. Et c'est ça mon but aujourd'hui. C'est ça qui anime mon cœur et qui brûle en moi. Cette envie de plaire à Dieu, d'aimer Dieu de tout mon cœur, parce que l'amour, c'est obéir. Je vais juste vous laisser une prière que vous pouvez faire avec moi. C'est le psaume 119, versets 33 à 40, et on va finir par cette prière que vous pouvez faire. Je vous invite à la faire, ceux qui veulent, vous pouvez la faire. C'est un cri vers Dieu, un cri pour vouloir obéir à Dieu. Et on voit vraiment dans le psaume 119 cet amour pour la parole. Au début de ma conversion, j'étais très zélé, j'espère que je le suis encore pour le Seigneur, et donc l'obéissance était pour moi importante. Et un jour, on m'a dit, « Ah, oh, mais toi, t'es légaliste oh !» Ça m'a blessé, ça m'a blessé, ça m'a fait du mal dans mon cœur, ça m'a déstabilisé. Et à un moment donné, j'ai dit, « Mais Seigneur, c'est pas possible ça, montre-moi, mais est-ce que c'est vrai? Montre-moi !» Et je suis parti à un moment donné en week-end, et durant ce week-end, Dieu m'a conduit sur le psaume 119. Et quand j'ai lu le psaume 119, tout le week-end, j'ai lu que ce psaume. Et là, Dieu m'a répondu, « Non, tu n'es pas légaliste, mais tu m'aimes. C'est l'amour qui est en toi. » Et des fois, on met sur cette envie d'obéir, on dit, « Ah, mais t'es légaliste. » Non, faux, attention. Attention, l'amour anime ce désir d'obéir et doit être en nous si je suis enfant de Dieu. Donc on va lire ces quelques versets, et que vous pouvez les prendre pour vous aussi, comme une prière. Vous pouvez lire avec moi si vous voulez, on va lire tout doucement et les lire ensemble avec moi. Que Dieu bénisse chacun. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi sur le sentier de tes commandements, car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'insulte que je redoute, car tes sentences sont pleines de bonté. Je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre par ta justice. La justice de Christ. Amen.